Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Voilà, Tech & Co, la quotidienne, jour 2, ici à VivaTech, pour les 10 ans de ce grand salon de la tech qui est une véritable réussite. On sera là demain. Demain pour de quoi je me mêle, mais on sera aussi là lundi dès 19h30 dans Tech & Co sur BFM Business avec encore une fois une émission exceptionnelle. Invité exceptionnel maintenant sur notre plateau, j'accueille Octave Klaba. Bonsoir Octave.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous.
Très heureux.
Parfait, vous êtes le fondateur et PDG d'OVH Cloud. Vous êtes l'un des grands bâtisseurs de la tech française. C'est vrai, vous avez créé OVH à la fin des années 90. Certains disent la légende que c'était dans un... Vous dormiez dans les couloirs de vos serveurs à l'époque. C'est vrai ça ou pas?
Ça m'est arrivé.
Ça vous est arrivé
dans les salles blanches avec beaucoup de bruit, mais oui.
C'est incroyable quand même, la réussite. Vous êtes vraiment l'incarnation d'une... belle réussite technologique française.
Bah merci, c'est beaucoup de travail, c'est aussi les équipes. On a aussi une présence européenne, on a pas mal des produits, pas mal des clients, donc c'est un succès commun. Hein.
OVH Cloud qui aujourd'hui, évidemment, défend le cloud, bien évidemment, l'IA aussi, la souveraineté. Première question, parce que j'aimerais que vous réagissiez à chaud à ce qui s'est passé il y a quelques jours à peine aux États-Unis. Anthropic sort la dernière version de Mythos, qui a été édulcorée, qui s'appelle Fable 5. Cette intelligence artificielle a été bloquée par le gouvernement pour les non-américains, c'est-à-dire que toutes les personnes étrangères n'ont plus accès à cette IA. Quelle est votre réaction sur ce qui s'est passé?
En fait, c'est que quelque part, on a les exemples concrets de tous les pires scénarios qui peuvent nous arriver en tant que les hommes.
On n'aurait jamais imaginé ça il y a ne serait-ce que 2 ans.
Et en fait, c'est tous les fantasmes que les gens ils appelaient encore des fantasmes ou des trucs qui ne vont jamais arriver, en fait, c'est en train d'arriver. Donc c'est quelque part, nous, notre réaction chez OVH, moi j'ai imaginé ces typologies des scénarios il y a quelques 2 ans, et c'est pour ça que je suis revenu aux commandes d'OVH en fait, à partir de septembre, en tant que CEO, en plus d'être président ou chairman du board, pour justement bosser, travailler autour de l'intelligence artificielle. Parce que si nous, en interne, ne maîtrisons pas cette technologie-là, je pense qu'on n'a pas d'avenir dans une dizaine d'années.
Je vous demande de parler un petit peu plus près du micro, enfin en tout cas voilà, de votre bouche, pour qu'on puisse bien vous entendre dans le micro. Octave, aujourd'hui, quels sont les axes, on va dire, principaux d'OVH et dans quelle direction vous voulez aller?
On fait toujours du cloud, on peut en parler, mais l'actualité elle est autour de l'IA.
Ça, c'est ce que vous faites depuis plus de 20 ans.
Plus de 20 ans, on continue à développer des produits, les présences mondiales, on va dans les différents verticaux. Donc ça évolue. Mais l'actualité récente, elle est autour de l'intelligence artificielle. Depuis début d'année, on a commencé à faire des acquisitions, des technologies, pour pouvoir justement se renforcer dans l'IA. Donc on a fait l'acquisition de Sild, qui nous permet de faire des chiffrements. Et on a fait l'acquisition des Dragon LLM pour faire des trainings et fine-tuning des modèles. Là, on a fait l'acquisition de Gladia. Il va y avoir d'autres acquisitions qu'on va faire.
Gladia, c'est la reconnaissance vocale. Hein,
c'est ça,
hein.
Tu STT, donc speech to text. Mm-hmm. Et on va faire text to speech avec cette équipe-là qui est incroyable. Et donc, quelque part, on cherche à se renforcer dans l'IA, mais pas juste en étant utilisateur de l'IA. On veut être créateur de l'IA. On veut entraîner des modèles from scratch. On veut pouvoir les fine-tuner, on veut pouvoir les spécialiser d'abord dans les métiers qui nous concernent. Alors vous allez dire, c'est quoi le métier qui nous concerne? Je ne parle pas des data de nos clients, ça on n'utilisera pas. Mais on ménage des infrastructures mondiales. On a 45 data centers, on a plus de 500 000 serveurs physiques, on a des millions de machines virtuelles. Tout ça, en fait, il y a besoin de développer du code. Il y a besoin de soutenir en fait ça en activité. Il y a besoin de le défendre. Il faut mettre des sécurités. Donc tous ces éléments-là en fait qui font partie de notre métier, on va l'entraîner dans les modèles pour pouvoir les proposer d'abord en interne pour qu'on puisse gagner en performance et gagner en sécurité, mais aussi proposer à nos clients. C'est ça l'axe des développements qu'on est actuellement en train de faire.
Donc vous voulez devenir un acteur européen et concurrent de Microsoft, par exemple?
Microsoft, mais aussi...
OpenAI?
Oui.
Google?
Aussi. En fait, c'est que quelque part, vous avez la deuxième vague des investissements dans l'IA. La première vague qui était il y a 3, 4, 5 ans, qui était l'OpenAI, qui était Anthropic, X, Mistral, à son point. En fait, ça, c'est les modèles fondamentaux. Depuis 4 ans, la barrière à l'entrée pour entraîner des modèles from scratch a énormément diminué. Vous avez beaucoup plus des équipes qui savent le faire. Vous avez énormément de papiers sur les algorithmes. Vous savez qu'avec moins de données, on peut faire des LLM parce que c'est du data de synthétique. Mm-hmm. Et l'entrée au niveau du CAPEX, au niveau des GPU, a diminué d'à peu près 10 fois. Et donc, vous pouvez faire ce qu'on faisait il y a encore 3-4 ans avec 10 fois moins de moyens. Et donc, si vous avez les mêmes moyens qu'il y a 10 ans, vous pouvez faire des modèles nettement plus intelligents. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, le modèle d'Anthropic, ils sont nettement plus intelligents que ce qu'on voyait encore il y a quelques années. Parce qu'en fait, le gain de performance au niveau des GPU, l'état de l'art, a beaucoup évolué et permettent d'aller beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'il y a cette deuxième vague des investissements dans l'intelligence artificielle. Microsoft, il a fait l'année passée, AWS qui sont en train de aussi le faire. Nous, on est en train de le faire parce que pour nous, la technologie, si on la maîtrise pas, on ne pourra pas survivre. On a besoin de coder illimité. Imaginez, en fait, vous avez une entreprise de plusieurs milliers de personnes qui utilisent l'IA au quotidien. Et ce qui vient d'arriver un week-end, bah vous arrive. C'est-à-dire, tout le monde au chômage technique.
Oui, parce que.
Vous ne survivez pas.
Un État.
Vous
décide,
ne survivez pas.
Voilà, une entreprise qui est originaire d'un État, cet État décide de couper les vannes.
Vous ne survivez pas à un événement de ce style-là, parce que vous avez gagné en performance, vous avez finalement peut-être pas recruté autant qu'il aurait fallu, si c'était tout en humain, bah, vous ne survivez pas à un événement de ce style-là. Donc c'est pour ça, nous, on est devenu tellement évident que pour nous il nous faut ça, mais aussi pour nos clients, parce que nos clients ils sont dans les mêmes situations. On est en train de travailler sur la souveraineté, on est en train de travailler sur la défense, on est en train de travailler sur les choses qui sont extrêmement importantes en termes des souverainetés, pas seulement du cloud, de l'énergie, l'ensemble des activités. On doit pouvoir faire cette activité-là sur les plusieurs années sans aucun problème, aucune problématique et dépendance à des acteurs externes.
Oui, mais Octave, le problème c'est que Microsoft, Google, OpenAI, Amazon, qu'on n'a pas cité depuis le début, sont excellents dans ce qu'ils font. Ils sont excellents, ils investissent des dizaines et des dizaines, voire des centaines de milliards. Est-ce que, franchement, on peut tenir la corde par rapport à ces acteurs américains ?
Regardez bien ce qui se passe au niveau des investissements. Ils appellent ça des R&D, mais ce n'est pas de la R&D. Regardez bien, en fait, dans le bilan.
Dans
le bilan financier, ça s'appelle R&D, mais ce n'est pas les R&D, ce sont des CAPEX. Vous avez bien sûr une partie des R&D. C'est-à-dire, on va dire, on ne fait pas de revenus avec ça, mais une énorme partie est liée à la croissance. Donc, c'est la...
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils dépensent beaucoup d'argent pour grossir, c'est ça ?
Parce qu'ils ont des clients.
Ouais.
C'est-à-dire aujourd'hui, les investissements dans l'IA, on parle de la bulle, est-ce qu'il va y avoir bulle ou pas ? Ça, je ne vais pas prédire, il y aura probablement quelques entreprises qui ne vont pas survivre, mais... Les CAPEX qui sont les investissements qui sont nécessaires pour faire l'entraînement, ça c'est déjà fait en fait. Il y a le renouvellement qui est fait, mais c'est une faible partie des investissements. La vraie grosse partie des investissements qui est faite, c'est parce qu'en fait il faut suivre la croissance. Parce qu'il y a derrière les utilisateurs, les clients qui souscrivent à des abonnements et qu'il faut les délivrer. Et donc on mélange en fait à travers cette ligne-là qui s'appelle R&D que les gens ils sont prêts à investir des milliards sur en ne gagnant pas d'argent. C'est faux. Ils gagnent de l'argent. Ils gagnent de l'argent. Il y a des entreprises dans l'IA
qui... OpenAI, pas autant que prévu.
Oui, mais c'est en fait, il y a quelques entreprises qui sont encore à perte, etc. Mais les cloud providers, je suis désolé, hein, ils gagnent de l'argent.
Alors, OVH AI Workspace, en est où en fait ? Est-ce que c'est déjà opérationnel ? Expliquez-nous.
Donc, c'est vraiment une histoire très très marrante. On est en train de développer un OVH IA Workspace. C'est quoi ? C'est l'email, Drive, visioconférence, messaging, l'ensemble des outils collaboratifs. Vous allez dire ?
Un Office 365 à la mode OVH, on va dire. C'est
nouvelle
ça ?
Nouvelle génération.
Non, mais c'est pour que tout le monde comprenne, en fait.
Voilà.
C'est une suite de logiciels qu'on
c'est
a déjà.
Une suite de logiciels. Vous allez dire, oui, mais il y a des open source, ça existe déjà. Oui, mais nous, on l'a fait avec la vision que j'ai exposée au Summit en novembre. C'est-à-dire que, pour moi, l'agentique, elle est au milieu, elle est connectée à l'humain, et derrière, vous avez des SaaS qui sont interconnectés avec de l'agentique. Et donc, vous dirigez à travers l'agentique l'IA, et c'est ça qu'on démontre. C'est-à-dire que, by the way, il y a un email. By the way, il y a messaging, etc. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que vous avez un agent à gauche et vous pouvez fouiller dans vos emails, fouiller dans vos drives, fouiller dans une conversation que vous êtes en train d'avoir dans une visioconférence, d'avoir les sous-scripts en dessous, les transcripts en temps réel, les traductions en temps réel. Vous pouvez avoir un résumé d'une conversation lorsque vous arrivez dans une visio en retard. Vous avez plein d'usages. Et en fait, à travers ça, c'est un exemple de développement que nous sommes en train de faire sur la plateforme que nous avons développée en interne, qui s'appelle Pass IA, qui nous permet de développer ça. C'est comme des poupées russes.
Oui, oui.
Vous voyez la poupée qui est tout en haut, qui s'appelle Workspace. Et c'est un des exemples de développement que nous sommes en train de réaliser avec la plateforme qui est en dessous, qui s'appuie sur les tokens as a service, qui s'appelle sur Public Cloud, qui s'appuie sur les entraînements des modèles et qui s'appuie sur les GPU et les data centers.
Et quand est-ce que vous serez prêt alors? Quand est-ce que vous proposez ça
on
à vos clients?
On prévoit la bêta vers novembre, donc au summit d'OVH, fin de novembre. Et je pense qu'on passera en production sur les services vers début 2027, janvier-février.
Et potentiellement, quels sont vos clients en fait? Ça va être des clients européens qui veulent justement essayer de prendre du champ par rapport à ces acteurs américains. On le voit aujourd'hui, c'est dans l'actualité. Il y a une montée en puissance, même ici, à Vivatech de la souveraineté.
C'est incroyable les feedbacks qu'on a sur le stand. C'est pour ça qu'on avait fait le pari de le montrer. Parce qu'il n'y a pas une seule personne qui ne dit pas quand est-ce que je peux l'avoir.
Quand est-ce que je peux y aller?
Parce qu'en fait, ça fait gagner en productivité énormément. Je ne parle pas en fait même de la souveraineté. En fait. Et c'est là qu'il faut rejoindre le message en disant oui, les Américains sont bons, mais les Européens, ils peuvent faire des meilleurs produits. D'abord le produit. Et c'est ça qu'on est en train de démontrer, que c'est le produit, l'envie de l'utiliser, les fonctionnalités à l'intérieur, c'est ça qui est innovant. Et by the way, oui, on est souverain. C'est développé à Paris, c'est développé en France. Derrière, c'est hébergé dans nos data centers, c'est derrière le GPU, tout l'ensemble de la stack et les chenoux. Donc on maîtrise tout l'ensemble de ce que vous utilisez au quotidien.
Sincèrement, est-ce que vous pensez pouvoir être au niveau de ce que font les Américains en termes de fluidité, d'expérience utilisateur, d'ergonomie, etc., etc.
Je pense que oui. Je pense que oui, parce que bizarrement, mais c'est vrai, l'IA va nous aider à accélérer. Je ne parle pas des cloud code ou codex. C'est développer une IA qui nous permettra d'être autonome et de pouvoir développer des outils de qualité. C'est pour ça que maîtriser, elle est essentielle pour nous. Parce que derrière, lorsque vous maîtrisez une technologie qui vous permet de coder en fait à volonté autant de lignes que vous voulez sans aucune limite, vous pouvez tout réécrire. Le développement désormais des logiciels, il consiste beaucoup à réécrire plusieurs fois par mois le même logiciel vers une autre version dans laquelle vous ajoutez de nouvelles choses, nouvelles fonctionnalités, mais du coup design, l'architecture, vous la changez pour l'upgrader. Donc vous faites des transformations du code tout en développant de nouvelles fonctionnalités quasiment dans un cycle mensuel. Ça, il faut qu'on maîtrise et ça, il faut qu'on donne en Europe. Ça, il faut qu'on donne ça dans les mains de nos clients. Il faut qu'on donne cette plateforme-là pour qu'eux puissent développer à leur tour des SaaS. Notre workspace, il est ouvert. C'est-à-dire que tous les SaaS de l'Europe, ils peuvent s'intégrer à l'intérieur. Vous avez l'agentique, vous avez un moteur de recherche à l'intérieur, vous avez du chiffrement. Vous pouvez chiffrer. Et quand vous activez le chiffrement, tout ce qui se passe dans le cloud, bah, il passe sur votre poste de travail en local. C'est-à-dire que on vous installe automatiquement un LLM sur votre poste de travail si vous avez les GPU. Par exemple, sur les Mac, ça marche très bien. Et derrière, vous avez les moteurs de recherche qui s'activent en local et vous pouvez fonctionner bah, dans un avion sans connexion Internet.
Vous avez déjà un business model pour tout ça. Est-ce que vous allez être agressif en termes de tarifs? L'idée, c'est quoi en fait?
Il y a des choses qu'on va faire montrer progressivement, mais j'ai de bonnes réponses là-dessus. Et réinvitez-moi vers la fin de l'année, je vous montrerai un petit peu ce qu'on va faire.
Est-ce que le grand public, vous, moi, ça vous intéresse aussi, ou est-ce que priorité aux entreprises?
Vous posez bien les questions.
Que je me pose moi en tant qu'utilisateur.
Bah, en fait,
avec tout ce que vous me dites, moi j'ai envie de m'éloigner un peu de ces acteurs américains.
Disons un petit peu par rapport à ce que je voudrais vous dire à la fin de l'année. C'est que oui, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup en fait de donner ces outils-là au maximum des utilisateurs, pas clients, utilisateurs en Europe, parce que c'est de cette manière-là on acquiert la confiance des grands comptes, la confiance. Si vous savez gérer 100 millions d'utilisateurs,
c'est la meilleure vitrine en fait.
c'est les meilleures manières en fait de déboguer, de trouver des nouvelles fonctionnalités, de montrer que vous arrivez à faire du scale et derrière de chercher des gros clients que eux pour le coup ils sont prêts à payer.
Ce summit de novembre à mon avis ça va être du costaud. Hein.
Oui, venez au summit, ça va être incroyable.
Bon ben on aura l'occasion sans doute d'en reparler Octave. Merci pour votre temps.
Merci beaucoup.
Octave Cabat, fondateur et PDG de VH Cloud, avec, vous l'avez compris, dans son escarcelle, pas mal de choses qui vont être annoncées dans quelques mois.